Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans Sciences Publiques. Comme toujours, vos réflexions et commentaires sont vivement attendus sur notre site au sujet de notre débat d'aujourd'hui. Les nanos sont-elles toxiques ? Les nanotechnologies visent la conception, la production et l'utilisation d'objets réalisés à partir de particules à l'échelle nanométrique, c'est-à-dire dont la taille est de l'ordre du nanomètre, soit 10⁻⁹ mètres, soit un millième de micron ou un millionième de millimètre. En entrant dans le monde des nanos, nous pénétrons dans l'infiniment petit et de ce fait dans l'invisible à l'œil nu. L'emblème des nanotechnologies reste le nanotube de carbone, identifié en 1996 après la découverte des fullerènes, une nouvelle forme de carbone, par 3 chercheurs en 1985. Depuis, les nanos alimentent à peu près à part égale les espoirs et les craintes. Fin 2009 et début 2010, le débat public organisé en France sur ce sujet a illustré ces deux phases des nanos. Les opposants ont alors réussi à boycotter les réunions publiques en dénonçant le caractère évangéliste de l'opération. Science publique en a alors rendu compte. Aujourd'hui, les nanos s'inscrivent toujours dans la liste des technologies très controversées en France, avec le nucléaire, les OGM ou le gaz de schiste. En particulier, leur caractère invasif est dénoncé par ceux qui estiment que la taille infiniment petite des particules ouvre la porte à une dissémination non contrôlée. Certaines poussières, comme les suies produites par les moteurs diesel, ont été classées comme cancérogènes par l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, en 2012. L'image des nanos se complique en effet du fait de la coexistence entre les particules volontairement conçues et produites par les industriels à cette échelle et celles qui résultent de certains processus. On les trouve ainsi dans la pollution de l'air, des fumées industrielles à celles des feux de bois, en passant par les particules fines des moteurs diesel ou la fumée de cigarettes. D'où les questions posées en matière de toxicité des nanos. Est-il possible aujourd'hui de délimiter le périmètre précis de ce que l'on nomme nanotechnologie ? Les nanoparticules sont-elles soumises aux tests de toxicité imposés aux produits chimiques, par exemple, depuis l'adoption par l'Europe en 2006 du règlement REACH ? Est-il possible de contrôler la dissémination des nanoparticules ? Et si oui, comment ? Peut-on établir un bilan, un rapport bénéfice-risque dans ce domaine ? Quel est l'impact des enjeux économiques et des lobbies industriels sur l'information du public en matière de nanotechnologie ? Pour répondre à ces questions, nous recevons aujourd'hui dans Sciences Publiques, en direct depuis le studio 1 de la Maison de la Radio, Stéphanie Lacour, chercheure au CNRS, responsable de l'équipe Normativité et Nouvelles Technologies du Centre d'études pour la coopération juridique internationale et responsable du bureau Nanosciences et Société du Centre de compétences en nanosciences d'Île-de-France. Roger Langlais est ancien enseignant en philosophie et auteur de nombreux ouvrages d'investigation, dont le dernier, intitulé « Nanotoxique », a été publié par Actes Sud en mars 2014. Pierre-Yves Montéléon est épidémiologiste, cofondateur d'Avicen, une association de veille et d'information civique sur les nanotechnologies, et il est responsable confédéral santé au travail à la CFTC. Laure Sabatier est biologiste, directrice du programme transversal toxicologie au CEA et directrice de recherche du laboratoire radiologie et oncologie au CEA de Fontenay-aux-Roses. Et Marc Verels est professeur à l'université Paul Sabatier de Toulouse 3, conseiller scientifique et créateur de Pilote et de Chromalis, deux PME qui produisent des nanoparticules. Il nous en parlera. Je vous rappelle que vous pouvez bien entendu nous communiquer vos commentaires, vos réflexions sur le site de Sciences Publiques, sur franceculture.fr. Alors, je vous propose un premier tour de table pour tenter de définir notre sujet de débat aujourd'hui, ce qui est particulièrement nécessaire dans le cas des nanotechnologies. Alors, peut-être Stéphanie Lacour d'abord, bonjour.
Bonjour.
En quelques mots, alors, quelle est la définition que vous donneriez, vous, des nanotechnologies ?
Alors, les nanotechnologies, elles ne sont pas définies en tant que telles par les textes juridiques. Ce qui commence à être défini au niveau juridique, ce sont les nanomatériaux. Et pour les nanomatériaux, on a une définition qui a été proposée par la Commission européenne dans le cadre d'une recommandation en octobre 2011, et puis une définition proprement française, qui est quand même assez grandement inspirée de la première. Alors, si vous voulez, je rentre un tout petit peu dans les détails. La définition européenne, donc d'octobre 91, voit dans un nanomatériau un matériau naturel ou formé accidentellement ou manufacturé contenant des particules libres dans la répartition numérique par taille, présentant une ou plusieurs dimensions externes situées entre 1 et 100 nanomètres. Vous voyez que c'est quand même une définition assez technique.
Qu'est-ce que signifie particules libres là, dans ce contexte-là ?
Qui ne sont pas agrégées encore.
D'accord. Donc qui sont
agglomérées.
Voilà. Qui ne sont pas fondues à l'intérieur d'un matériau particulier. D'accord ? Vous en aviez une autre ?
La définition française, vous voulez, qui définit non pas les nanomatériaux, parce qu'en France, on a choisi un objet juridique un tout petit peu différent, on a choisi d'appréhender les substances à l'état nanoparticulaire, et qui sont définies comme des substances telles que définies à l'article 3 du règlement REACH, donc le règlement sur l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, substances fabriquées intentionnellement à l'échelle nanométrique, contenant des particules non liées ou sous forme d'agrégats ou sous forme d'agglomérats, dont une proportion minimale de particules dans la distribution des tailles en nombre présente une ou plusieurs dimensions externes se situant entre 1 et 100 nanomètres. Donc là, on a une définition qui, au-delà de son aspect très technique, est un peu plus étroite que la définition européenne, hein, ne serait-ce que parce qu'on n'appréhende que les nanoparticules manufacturées et pas les nanoparticules naturelles ou accidentelles. Et pour après des détails un tout petit peu techniques hein, qui écartent les nanomatériaux nanostructurés, notamment ceux qui fonctionnent avec des cavités à l'échelle nano.
On voit bien quand même un des points délicats de la définition, qui est justement la différence entre la définition européenne et la définition française, c'est la prise ou non en compte des nanoparticules qui ne sont pas volontairement fabriquées.
Oui. Alors ça s'explique assez facilement hein, par l'objectif des textes en cause. Au niveau européen, on a une recommandation qui est vraiment faite uniquement pour définir les nanomatériaux. En France, on a une définition qui a pour objectif de permettre la déclaration par les fabricants, les importateurs et les distributeurs de substances à l'état particulier des substances hein, qu'ils utilisent sur le marché français. Donc ça vise hein, les industriels du secteur. Donc logiquement, on ne va pas intégrer dans la définition des particules naturelles.
Ok. Laure Sabatier, bonjour.
Bonjour.
Quel est votre sentiment par rapport à cette question de la définition des nanotechnologies ?
Je pense que c'est une définition qui est tout à fait pertinente hein, et qu'il faut bien se rendre compte que quand on parle de nano-objets, on peut avoir tout à fait des dimensions qui sont de l'ordre de 1 à 100 nanomètres pour une à deux dimensions, mais on peut avoir la troisième qui est beaucoup plus grande. Quand on va parler des nanofibres, on va parler des nanotubes de carbone dans lesquels on fonde beaucoup d'espoir dans les technologies, on peut avoir des dimensions qui sont de l'ordre de plusieurs micromètres. D'autre part, il y a aussi une chose qui est le fait que même si on crée ces nanomatériaux, on les crée avec une certaine hétérogénéité et actuellement, on s'accorde à dire qu'il faut qu'il y ait au moins 50% des objets qui respectent cette définition pour qu'on considère que c'est un nanomatériau. Mais à l'intérieur, si vous commandez un produit, vous considérez que ça va être un nanomatériau et que vous l'analysez avec toutes les techniques permettant de les caractériser sur plan physico-chimique, vous voyez que vous avez une hétérogénéité d'objets avec certains qui correspondent à ces dimensions-là et d'autres qui ont des dimensions qui sont très variables. Donc on a affaire à quelque chose qui nous semble une définition qui est très précise, alors qu'en fait déjà on a quelque chose qui est très hétérogène.
À vous entendre, on comprend voilà. La difficulté.
Et puis d'autre part, ce matériau, il ne reste pas comme ça tout seul. Dès qu'il va rencontrer, puisqu'on va parler de toxicité, dès qu'il va rencontrer des fluides au niveau respiration, au niveau cutané, il va tout de suite être entouré de protéines. Et donc il ne va plus du tout être sous l'objet tel qu'on l'imagine de façon théorique. Et donc, on ne peut plus parler en soi de nanomatériaux seuls. On va s'intéresser au nanomatériel entouré d'une gangue de protéines qu'on appelle la corona. Et c'est cela qu'il va falloir étudier.
Très bien, on va y revenir bien sûr parce que c'est le sujet central au niveau toxicité. Marc Verrez, bonjour.
Bonjour.
Donc vous en fabriquez des nanoparticules, donc c'est pour ça que vous avez un rapport très concret à la chose. Comment vous réagissez à cette difficulté de définition?
Mais d'abord, je voudrais préciser que la société pilote ne fabrique pas de nanoparticules. C'est retiré du domaine, donc il n'y a pas de production de nanoparticules au niveau de la société pilote pour les problèmes qu'on va discuter. Alors la société Chromalis, que j'ai créée en 2013, oui, mais dans le domaine de la santé. Sur la définition, je voudrais la faire un peu plus large. Les nanotechnologies ne se limitent pas à la manipulation des nanoparticules. Il y a tout un domaine des nanotechnologies qui concerne des objets qui ne sont pas des nanoparticules. Par exemple, les revêtements anti-reflets ou anti-rayures de mes lunettes sont de taille nanométrique, mais ne comportent pas forcément de nanoparticules. Dans tous les ordinateurs portables, les téléphones, un transistor, par exemple, dans un ordinateur portable, maintenant, c'est quelques dizaines de nanomètres, c'est pas une nanoparticule, c'est une structure. Mais là où vous avez raison, c'est bien évidemment les nanoparticules qui, actuellement, posent un problème de santé, un problème de toxicologie.
Très bien. Alors, justement, ce problème, Roger Langlais, bonjour. C'est celui que vous avez traité dans votre livre. Comment, déjà, au niveau de cette définition, vous réagissez?
Ce qui est important, je crois, de rappeler déjà d'emblée, c'est que ces définitions sont le fruit d'un intense lobbying. C'est-à-dire, c'est pas le fruit d'une objectivité comme ça qui tomberait deus ex machina du ciel, hein, et qui s'imposerait en toute objectivité. Il y a une guerre de définitions.
Ça tombe rarement du ciel, les définitions, Marc.
Voilà. Mais là, en l'occurrence, il y a des enjeux économiques autour de ces définitions. Et des enjeux aussi de prévention. Bon, moi je m'interroge, qu'est-ce que deviennent là les nanos, enfin ce que j'appelle les nanos, c'est-à-dire celles qui sont juste au-dessus de la barre des 100 nanomètres. Elles se trouvent exclues, on parlait de la quantité aussi de la proportion dans les définitions. Il faut savoir que les lobbies là sont à l'œuvre. Il y a une guerre des mots pour les très gros lobbies industriels qui conditionnent derrière des possibilités de contentieux ou au contraire l'évacuation des contentieux qui vont forcément arriver comme pour toutes les nouvelles substances et en l'occurrence vu la toxicité de certaines. Il y a aussi dans le problème des définitions dans ces définitions qu'on vient d'entendre, à mon sens une confusion entre, qui est très importante du point de vue toxicologique, une confusion entre la gestion des risques que préparent justement ces définitions et l'évaluation des risques. Or, ces deux fonctions doivent être fondamentalement distinguées. C'est à cause de leur confusion, précisément, entre la gestion des risques et l'évaluation des risques, c'est à cause de cette confusion qu'on s'est retrouvé avec des scandales comme celui de l'amiante, en particulier, où on a tout confondu et où le travail de lobbying, précisément, a fait en sorte de confondre ces deux opérations. Gestion des risques, on en reparlera, c'est très très important. C'est une fois qu'il y a des choses autour de nous, comment on les gère, voyez. Et l'évaluation des risques, c'est complètement en amont, normalement, toxicologie. C'est-à-dire qu'on indique vraiment la toxicité en elle-même des substances considérées. Voilà, c'est ce qui me frappe d'emblée.
Très bien. Pierre-Yves Montéléon, vous représentez un petit peu justement cette relation entre les technologies, et en particulier les nanotechnologies, et le grand public, le citoyen. Quel est votre sentiment aujourd'hui sur cette perception? Est-ce que le grand public, de votre point de vue, sait de quoi on parle aujourd'hui, par exemple?
Bonjour. Non, en réalité, tout ce que je viens d'entendre sur la définition des nanos me satisfait assez peu en tant que public, puisque j'appréhende déjà assez mal ce qu'est un nanomètre, voire une centaine de nanomètres. Et que, en plus, ces définitions sont absconses et que sont destinées aux professionnels de la profession et guère au grand public. Donc, l'objet, c'est aussi de rendre tout ça accessible à chacun, que chacun puisse s'emparer de ce sujet et comprendre quels sont les enjeux qui ont été soulignés tout à l'heure, les enjeux toxicologiques, les enjeux économiques, les enjeux scientifiques, les enjeux éthiques, politiques. À tout un ensemble d'enjeux autour d'une... C'est pour ça que je parlais de nanosciences. Les nanosciences, c'est quelque chose de relativement récent. Ça s'intéresse à l'infiniment petit, du moins du point de vue du citoyen, c'est déjà de l'infiniment petit, même si on pourrait avoir des définitions encore différentes de l'infiniment petit. En tout cas, des choses que je ne peux plus voir, qui ne sont plus du domaine de ce que je peux appréhender, prendre en main, regarder, entendre, et donc sur lequel il me faut des informations précises qui me permettent de comprendre de quoi je vais parler. Or, tout ce que j'ai entendu là comme définition ne me permet pas vraiment de comprendre de quoi je vais parler. Peut-être si, quand on parle de couches anti-reflets sur les verres de lunettes ou de particules dans les fumées, ou des choses comme ça, c'est quelque chose qui m'évoque des choses. Mais sinon, si on parle réellement de nanosciences, nanotechnologie, nanomatériaux, nano-objets, nano... etc., toutes ces nanos-là, je ne sais pas vraiment ce que c'est. Donc, l'Avicenne a pour objet de rendre tout cela intelligible par le grand public.
Alors, les choses se sont compliquées, puisque le mot nano est tellement beau en lui-même qu'il a été aussi exploité en tant que tel comme nom d'objet par une marque que nous n'avons pas besoin de citer. Marc Verrez voulait réagir.
Oui, pour préciser un peu les échelles de taille, le nano, c'est quand même c'est beaucoup plus petit que ce qu'on ne peut pas voir. 50 nanomètres, c'est typiquement la taille d'un virus. C'est-à-dire que c'est à peu près 100 fois plus petit qu'une cellule ou qu'une bactérie. Et c'est d'ailleurs là où il y a les problèmes toxicologiques, que c'est vraiment un objet qui est tellement petit qu'il interagit très facilement avec la base de la matière vivante qui est la cellule. On peut rentrer, sortir, on en discutera.
Est-ce que ce n'est pas l'un des problèmes quand même dans la compréhension par le grand public, cette difficulté déjà à définir l'objet, Stéphanie Lacour, je reviens à vous.
Je ne suis pas certaine que ce soit au cœur de la difficulté du grand public. En ce qui concerne la définition des nanomatériaux ou des nanotechnologies en tant qu'objet, je pense qu'il y a plus de difficultés liées au fait qu'il s'agisse là de technologies qu'on appelle des technologies génériques, autrement dit qui ont des applications industrielles dans des secteurs extrêmement variés qui vont du secteur de l'électronique, on en a parlé tout à l'heure, jusqu'aux médicaments, en passant par des articles de sport, des cosmétiques, des carrosseries automobiles ou des éléments de pneus, par exemple. Donc le champ d'application est tellement varié qu'il est effectivement assez difficile, dans le domaine des applications, de s'en faire une idée concrète. Et de facto, on est ramené à essayer de chercher quel est le point commun de toutes ces applications et à chercher une définition dans l'objet lui-même, définition qui va nécessairement être un tout petit peu plus technique. Simplement, je voulais rebondir sur ce que disait M. Langlais au sujet des difficultés de distanciation entre l'évaluation et la gestion des risques, pour préciser qu'en matière d'évaluation des risques, on a des définitions qui sont autrement plus techniques, autrement plus compliquées que celles qu'on a adoptées, que je vous ai citées au niveau européen et au niveau français pour leur gestion. Par exemple, depuis quelques années, l'OCDE a créé un groupe de travail pour les nanomatériaux manufacturés pour essayer de faire évoluer les guides techniques d'évaluation des risques qui étaient auparavant applicables aux substances chimiques. Prenons en considération le fait qu'à l'échelle nanométrique, les techniques qui étaient utilisées pour évaluer les risques risquaient de ne pas être efficaces et de ne pas donner de réponse adéquate. Et ne serait-ce que sur un des premiers points sur lequel a travaillé ce groupe, à savoir comment est-ce qu'on peut caractériser quel est l'objet sur lequel on travaille, comment est-ce qu'on se met d'accord entre tous les pays de l'OCDE pour savoir de quel objet on parle lorsqu'on évalue les risques liés à un objet, on a plus de 17 points de caractérisation physico-chimique différents. Donc c'est autrement plus technique que les quelques définitions que je vous ai données là et qui sont pourtant passablement compliquées déjà.
Laure Sabatier.
Oui, pour le visualiser par rapport à la question que vous posiez par rapport au grand public, actuellement, on voit dans de nombreux films la molécule d'ADN. Et si on peut faire le rapprochement avec l'échelle nanométrique, c'est la distance entre les deux brins d'ADN. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'on a petit à petit intégré dans notre mode de pensée, du moins visuellement. Et sinon, par rapport, on dit aussi que c'est un 50 millième de cheveux.
Et là, ça
pour vous dire que là, ça devient
moins palpable.
Beaucoup plus difficile de le palper. Mais par rapport aux risques, il y a un mot qui est indispensable, c'est d'arriver à anticiper ces risques par rapport à l'ensemble des connaissances qu'on va avoir sur les nanos, au fait qu'il va y avoir des travailleurs qui vont y être exposés et faire en sorte que en l'absence de risque avéré, du moins on puisse prévenir le fait que potentiellement il puisse y avoir des effets à long terme, puisque visiblement à l'heure actuelle on ne voit rien qui puisse nous laisser penser qu'il y a un risque de toxicité aiguë fort. Là, on peut, j'espère que Roger Langlais est d'accord avec moi, le risque immédiat est inexistant. En revanche, le risque à long terme, lui, va faire débat.
Je vous rappelle que vous écoutez Science Publique sur France Culture en direct depuis le studio 1 de la Maison de la Radio. Nous débattons aujourd'hui de la question « Les nanos sont-elles toxiques ?» avec nos invités Stéphanie Lacour, responsable de l'équipe Normativité et Nouvelles Technologies du Centre d'études pour la coopération juridique internationale, Pierre-Yves Montéléon, cofondateur d'Avicenne, une association de veille et d'information civique sur les nanotechnologies, Roger Langlais, auteur de l'ouvrage intitulé « Nanotoxiques » publié chez Actes Sud, Marc Verels, professeur à l'université Paul Sabatier de Toulouse 3 et créateur de deux PME, Pilote et Chromalis, et Laure Sabatier, biologiste, directrice du programme transversal toxicologie au CEA. Alors, Roger Langlais avait commencé à répondre, mais pendant notre petite interruption, alors je lui donne la parole pour rebondir sur sans doute ce qu'a dit Laure Sabatier à l'instant.
Alors, en fait, sur plusieurs interventions, déjà sur la question des verres, tout à l'heure qui a été évoqué,
les verres
donc ces nanos qui ne seraient pas sous forme nano parce qu'elles seraient tellement prises dans les matériaux qu'elles seraient en quelque sorte éliminées de la considération sur la toxicité. Il faut quand même penser qu'il y a une abrasion, une usure. Qu'ensuite il y a une filière de destruction, de mise en déchets, etc., et qu'on ne maîtrise absolument pas ça. Je pense en particulier aux pneumatiques, les nanos dans les pneus, aujourd'hui il y en a. Il y a une abrasion intense sur les routes, évidemment, ça s'use quand même. Et la maîtrise toxicologique, on va dire, là, la gestion, vous voyez, du risque, eh bien, elle est plus possible quand il y en a partout, que ça devient une poussière qu'on peut inhaler. Et là, on a un vrai problème. Et vous voyez, les définitions pour inclure le processus même de transformation, parce qu'aussi les nanos, c'est souvent très instable, ça bouge, le profil toxicologique change en fonction du parcours de la nano, des rencontres, des contextes, des substances chimiques qu'elle va croiser, des protéines qu'elle va croiser dans l'organisme, etc. Vous voyez que cette approche, on va dire, définitionnelle, pour moi, elle est très insuffisante, évidemment, et on retrouve les problèmes que lorsqu'on sort de cette guerre de définition.
Pierre-Yves Montéléon.
Oui, je suis content d'entendre ces définitions, parce que du coup, je comprends mieux de quoi nous parlons. Et,
c'était le but.
Je suis donc satisfait de ça, parce que je vais pouvoir vous parler d'autre chose, c'est-à-dire de comment on prend les décisions. Face à cette production de nanomatériaux, comment le citoyen peut être associé à ces décisions et comment, par exemple, est-ce qu'il est intéressant d'avoir des nanoparticules dans ses verres de lunettes? Quels sont les bénéfices et les risques que donnent ces nanoparticules dans les verres de lunettes? Est-ce que ça me permet de voir mieux? Mais est-ce que, quand je vais les éliminer, je ne mets pas en danger la vie des personnes qui s'occupent des déchets? Est-ce que je ne mets pas en danger l'environnement? Donc toutes ces questions-là, qui sont relativement peu soulevées par le monde industriel, qui produit des nanoproduits qui sont, par essence, nouveaux dans leurs applications et donc aussi dans leur toxicité, puisqu'ils sont très réactifs, et c'est l'objet, c'est pour ça qu'on les fabrique. Et on les fabrique parce qu'ils sont très réactifs, qu'ils apportent des particularités physico-chimiques nouvelles, et donc des risques nouveaux.
Marc Verels,
je voudrais rebondir sur les problèmes d'abrasion. Il était quand même extrêmement difficile de fabriquer des nanomatériaux, notamment par abrasion ou par broyage. Si vous voulez faire des nanomatériaux par broyage, vous devez faire du broyage cryogénique de très haute énergie. Si simplement vous usez un matériau, vous ne faites pas des nanoparticules, vous faites des microparticules qui sont beaucoup plus grosses. Donc dans le cas d'usure sur des lunettes ou des pneus, vous allez relarguer des particules qui certes contiendront à l'intérieur des nanoparticules, mais la particule d'usure sera beaucoup plus grosse.
Alors ça, c'est justement un point de débat, apparemment, Roger Langlais.
Et... C'est non seulement un point de débat, mais un point de secret, parce qu'il faut rappeler que la dernière conférence de l'ANSES, hein, l'Agence nationale de sécurité, sur, justement, les problèmes d'abrasion, lorsque quelqu'un dans la salle a évoqué le problème des pneus contenant des nanos, on a eu un bredouillage absolument incroyable de la conférencière de l'ANSES qui, à reculons, a reconnu qu'il y avait bien une étude qui avait été menée avec une grande entreprise française de pneumatiques, mais qu'elle n'avait pas le droit de délivrer les résultats. Là, on parle bien des nanos libérés par l'abrasion des pneus sur les routes. Bon, ce qui, évidemment, a fait s'esclaffer, ça fait un tollé dans la salle. Hein, et on attend toujours qu'on rende public, enfin, ces données sur là, des mécanismes d'abrasion qui concernent la santé de tout le monde.
Stéphanie Lacour.
Le fonctionnement de l'ANSES a pu soulever un certain nombre de critiques, hein, mais en l'occurrence, hein, qu'il s'agisse de l'ANSES ou de l'agence qui l'a précédée, l'AFSET, sur les aspects environnement et travail, on a quand même des agences qui ont abondamment communiqué sur les problématiques de risques sanitaires et environnementaux liés aux nanomatériaux depuis bientôt une dizaine d'années, qui le font régulièrement et à qui il faut aussi, je connais pas le dossier en question, hein, mais à qui il faut aussi laisser le temps de travailler. L'ANSES, elle travaille en ayant recours à des experts scientifiques qui ont besoin de temps pour évaluer les connaissances disponibles et donner des réponses. Peut-être tout simplement que ce qui est arrivé à la conférencière de l'ANSES, c'est de se retrouver dans une position où ces experts étaient en train de travailler et elle n'avait pas de réponse à vous donner, si ce n'est celle qui est déjà disponible.
Elle avait des réponses, simplement qu'elle n'avait pas le droit. Du fait du contrat qui avait été passé avec l'entreprise, on devine qu'il s'agit, elle n'avait pas le droit de diffuser ses résultats. Et là, il y a quelque chose d'absolument inacceptable. On parlera sûrement du problème des étiquetages en particulier, mais sur la question de la traçabilité et de la mise vraiment sur la place publique des données aujourd'hui qu'on peut posséder sur les expositions, c'est absolument fondamental. Et l'ANSES, hélas, ne remplit pas complètement sa mission de ce point de vue.
Laure Sabatier.
Alors là, à nouveau, je pense que pour enchérir ce qui vient d'être dit sur l'ANSES, l'ANSES vient de publier un rapport sur l'évaluation des risques nanomatériaux, qui est vraiment un rapport très complet et très intéressant, et qui vraiment, je pense, fait la part des choses de la situation à l'heure actuelle. D'autre part, en France, on a quand même fait un travail important sur la partie déclaration des nanos, et ça c'est vraiment quelque chose qui, au niveau européen, est une initiative qui est une initiative française.
Et qui pour l'instant reste uniquement française.
Et qui pour l'instant reste française, et donc je pense qu'il faut vraiment là saluer la façon dont la France a pris en charge cette évaluation des risques.
Pierre-Yves Montelléon voulait intervenir.
Oui, pour être complet sur l'ANSES, on a la chance...
Alors, l'ANSES n'étant pas présente autour de la table,
on ne va pas parler abondamment, mais je voulais citer justement ce rapport qui est récent et dire qu'on a la chance d'avoir une agence d'évaluation en France et qui ne mélange pas évaluation et gestion. C'était quand même le souhait qui était émis tout à l'heure. Et il existe un comité de dialogue nanomatériaux et santé au sein de l'ANSES, dans lequel la Vicen est présent, et qui, justement, permet à la société civile de s'exprimer.
Marc Véret.
Oui, donc comme je disais, moi je me fais pas particulièrement de soucis par rapport au problème d'usure. Par contre, je suis d'accord avec vous, le devenir des nanomatériaux est un problème, un grand problème pour tous les produits industriels qui sont mis sur le marché. Et par exemple, ce qui m'inquiète beaucoup plus, c'est qu'on se dirige vers beaucoup de matériaux nanomatériaux, vers leur incinération. Et pour... Alors... Un processus thermique, déjà, naturellement, enfin, produit des nanomatériaux. Alors, incinérer des nanomatériaux, c'est quelque chose pour moi qui... Alors, certes, on a beaucoup parlé des nanotubes de carbone. Un nanotube de carbone brûle, donc eux, il n'y a pas de problème. Mais tout ce qui est des nanoparticules beaucoup plus persistantes, comme à base d'oxyde de titane ou d'oxyde de zinc, etc., les passer à l'incinérateur, c'est le meilleur moyen de les disséminer partout.
De les disséminer, effectivement. On a parlé de l'usure, etc., mais il y a quand même des nanoparticules qui sont d'ailleurs utilisées en cosmétique ou autre, qui, elles, sont directement à l'intérieur d'un produit qui a pour vocation d'être en contact, par exemple, avec la peau, Laure Sabatier. Dans ce cas-là, que se passe-t-il? Je pense que c'est une question que beaucoup peuvent se poser.
Là, je pense que vraiment, on rentre dans la question du bénéfice-risque. Il est certain que quand vous parlez de crème solaire, il vaut mieux avoir une très bonne protection contre le soleil que d'être exposé à l'apparition de cancers cutanés des années après l'exposition.
On peut quand même se poser la question, à quel prix cette protection ?
Il faut arriver à trouver la meilleure protection par rapport aux risques auxquels on s'expose. Et il se trouve qu'à l'heure actuelle, le fait d'ajouter du TiO2 dans les crèmes solaires...
Donc du dioxyde de titane, qui est très souvent utilisé.
Semble être une bonne... assurer une bonne protection pour les crèmes solaires. Maintenant, je pense que la question elle va plus se poser pour, par exemple, le nano-argent, où on va pouvoir avoir une balance qui va être plus facile à discuter, on va dire. Est-ce que c'est intéressant d'avoir du nano-argent dans des chaussettes ? Est-ce que c'est intéressant d'avoir de nano-argent dans des vêtements ?
Pour supprimer les odeurs, parce qu'on ne devine pas forcément l'usage, mais c'est celui-là, si j'ai bien compris.
Pour supprimer les odeurs, ou pour supprimer le développement bactérien, et d'avoir du nano-argent dans des vêtements qui sont destinés à l'usage dans les hôpitaux, ou là, arriver à enrayer... la propagation de bactéries est vraiment très importante. Donc, on rentre vraiment dans l'idée du bénéfice-risque hein, et dans quel cas il y a vraiment un avantage à mettre des nanomatériaux et d'autres, dans d'autres cas où on a l'impression que c'est un peu superflu.
Absolument. Il y a eu le cas, je crois, des jouets qui intégraient du nano-argent et qui d'ailleurs ont été retirés au final. Roger Langlais.
Alors, sur les nanoparticules de dioxyde de titane qu'on met dans les crèmes, dans les crèmes solaires, il faut quand même dire que à un moment, l'argument de L'Oréal, ça avait été, on a encapsulé ces nanoparticules de façon à ce qu'elles ne pénètrent plus à travers l'épiderme.
Dès qu'elles soient plus grosses,
où on s'aperçoit qu'en fait, dès qu'elles sont au contact de l'eau, ce qui est quand même assez souvent le cas quand on met de la crème solaire, voire de la sueur, ce qui est aussi le cas quand on est exposé au soleil, ces encapsulages sautent et le dioxyde passe à travers l'épiderme. Donc je ne vois pas du tout le rapport l'équilibre bénéfice-risque ou l'intérêt. C'est juste scandaleux de faire aujourd'hui une publicité et simplement d'appliquer ces nanos dans des crèmes sans recul toxicologique et même sans prise en compte des démonstrations toxicologiques qui aujourd'hui sont plus qu'alarmantes.
Alors évidemment, tout le monde veut parler, donc ça va être compliqué. Marc Verhelst.
Non, je suis désolé, ça c'est faux. Le nanotitane, il est encapsulé dans de la silice, non pas pour l'empêcher de pénétrer l'épiderme, c'est parce que le nanotitane est un produit qui est photocatalytique, c'est-à-dire qu'il va produire des radicaux libres en présence d'eau et en présence de lumière. Donc ça, c'est extrêmement toxique et en plus, ça détruit la crème solaire. Donc c'est pour ça qu'ils encapsulent. Mais c'est pas pour l'empêcher de pénétrer l'épiderme.
Enfin, c'est pour empêcher le processus, tout cas, toxique.
Laure Sabatier.
Oui, surtout que le nanotitane, on en a dans tous les petits bonbons style Smarties, M&M's, pour faire la petite pellicule blanche qui évite que ça fonde dans la main. On en ingère une grande quantité. L'épidémiologie ne montre pas.
Mais la toxico nous montre en revanche le problème.
Alors oui, la vraie question, c'est l'ingestion de de titane, donc de dioxyde de titane, soit par la peau, soit par la bouche. Est-ce que ça a un effet sur la santé ? C'est la question, je suppose, tout le monde s'est posé immédiatement.
Alors en toxico, on voit bien, c'est un cytotoxique, c'est toxique pour les cellules. On a aussi des processus inflammatoires sur le très long terme, ça veut dire carcinogène à l'arrivée. On a un dérèglement au niveau de l'ADN. Encore une fois, en toxico, et la toxico, à moins qu'on décide de la balayer et de l'oublier, normalement elle est là pour mettre en place une prévention en amont, c'est-à-dire avant la commercialisation.
Pierre-Yves Montéléon.
Oui, le débat s'installe bien parce que le dioxyde de titane est utilisé non pas sous forme nanométrique, mais sous une forme micrométrique éventuellement. Et quand c'est utilisé sous forme nanométrique, c'est pas toujours identifié comme tel, ou alors ça peut être, comme c'était le cas sur L'Oréal, un argument publicitaire qu'on retire ensuite parce que nano commence à faire peur. Donc le dioxyde de titane, c'est bien emblématique. C'est-à-dire que les effets que vous avez soulignés de la lumière ou même de l'air sur la particule nanométrique sont pas les mêmes que sur la particule plus grosse. Par contre, les effets opacifiants et de rendre un produit blanc du dioxyde de titane, ils existent à l'espace macro. et donc avec cette toxicité qui est déjà connue. Mais mettre en regard des toxicités sur les nanomatériaux en disant ils vont s'approcher de la toxicité du macromatériau, c'est ce que certains essayent de faire, mais c'est relativement faux puisque les caractéristiques physiques ne sont pas les mêmes.
Vous voulez dire qu'on ne peut pas inférer une toxicité des nanoparticules à partir de ce qu'on connaît des particules plus grosses.
Tout à fait, parce que c'est très différent. Les objets plus petits sont créés pour avoir des effets physiques et physiologiques différents.
Alors, Sabatier.
Oui, et puis pour en revenir aux informations sur la toxicité du dioxyde de titane, là, c'est vraiment quelque chose qui a fort débat, puisque toutes les études qui ont été faites avec des concentrations qui étaient importantes, avec des tests pour lesquels on a beaucoup de difficultés à utiliser dans le cadre d'usage des nanoparticules, puisque exactement comme vous l'aviez souligné tout à l'heure, on a besoin de tests réglementaires, et il se trouve que l'usage des nanoparticules fait que les tests qui sont les tests réglementaires à l'heure actuelle, un grand nombre d'entre eux ne sont plus valides, puisque la nanoparticule elle-même interfère avec la façon dont le test fonctionne. Donc on a absolument besoin de mettre en place un ensemble de caractérisations physico-chimiques et de tests réglementaires qui vont nous permettre de pouvoir réellement répondre à la question de ces nanoparticules sont-elles toxiques.
Donc vous voulez dire qu'il va falloir mettre en place un processus pour vérifier la toxicité de produits qui sont utilisés massivement déjà par le public.
Tout à fait. Et là, c'est vraiment l'objet. Donc, à l'échelle européenne, il y a un gros projet qui se met en place qui s'appelle NanoReg, qui a pour but d'identifier tous ces tests et d'harmoniser la mise en place de ces tests dans les différents pays et de faire en sorte qu'il y ait une réglementation qui soit commune et un ensemble de procédures qui soient communes pour l'ensemble des pays. Parce que pour l'instant, on dit tout et son contraire sur la toxicité de ces particules.
Non, pas en toxicologie. Pas tout et son contraire. Dans mon livre, je fais des colonnes entières au regard de chaque nano parmi les plus utilisés sur l'état des connaissances. Et je cite les études toxicologiques ou les études de synthèse de l'ANSES en particulier et d'autres. Et on s'aperçoit que c'est un cytotoxique majeur. On s'aperçoit que non seulement... Enfin, il détruit tout dans la cellule. Il entraîne l'apoptose, le suicide des cellules. Il passe les barrières...
Vous parlez toujours du dioxyde de titane.
Oui, absolument. Il passe les barrières hémato-encéphaliques, les barrières gastro-intestinales, etc. On a un tableau toxicologique aujourd'hui, on va dire quasi apocalyptique. Bon, et
sauf si les règles de pour réaliser ces essais ne sont pas valides, comme a essayé de l'expliquer Laure Sabatier.
Encore une fois, c'est bien documenté. Ce sont d'ailleurs des études auxquelles se réfère l'ANSES quand il tire effectivement l'alarme en disant stop, et il faut remettre en place le principe de précaution, c'est-à-dire un goulot d'étranglement avant la mise sur le marché des nanos en question, qui prennent en compte les résultats toxicologiques.
Alors, ce qui est surprenant, justement, c'est quand même que ces produits soient tous sur la place publique, dans la consommation, alors qu'on en est à s'interroger sur la procédure de test permettant d'en mesurer la toxicologie. Marc Vérel.
Oui, non, je ne suis pas d'accord sur ce tableau apocalyptique de la toxicité dioxyde de titane. Il y a des suspicions, effectivement, de cytotoxicité qui passe à barrière céphalique, je ne pense pas. Mais bon, après...
Après, effectivement, hémato-encéphalique, c'est quand même une barrière importante, parce que c'est celle qui protège le cerveau oui.
Ensuite, effectivement, il y a un problème de balance bénéfice-risque. Les nanoparticules de titane ont permis de faire des crèmes solaires à très haut indice, très protectrices. Est-ce que maintenant, on a vraiment besoin de crèmes solaires à des indices 50 ou 60 simplement pour aller à la plage? Peut-être pas. Peut-être bien qu'il faut revenir à des crèmes solaires d'indices plus
moyens. Mais ça, personne ne sait que quand on arrive à ces indices-là, il y a un risque particulier qui est lié au dioxyde de titane.
Non, mais c'est toujours la balance bénéfice-risque. Non, mais
est-ce qu'on a besoin de... Ce bénéfice-risque n'a de sens que si on est au courant. C'est-à-dire on peut choisir d'aller au soleil avec une crème contenant du dioxyde de titane si on est au courant, et si aussi on est au courant des risques que cela peut avoir. Et je ne crois pas qu'on soit forcément très au courant. Stéphanie Lacour essaie de parler depuis un moment.
Déjà. Voilà, deux choses sur les cosmétiques. La première, c'est que, coup de bol, le règlement cosmétique de 2009 est le premier règlement à avoir prévu des obligations d'étiquetage. Et dès cet été, si vous allez acheter aujourd'hui de la crème solaire dans des enseignes de la grande distribution...
Cette année, pour la première année.
Voilà, vous allez trouver la mention « nano » entre crochets à côté des ingrédients qui
dans quelle taille de caractère
nanométrique. En général, c'est minuscule et en général, la liste des ingrédients est écrite toute petite à l'arrière et pas très différenciée. Donc, il faut chercher. Mais ceci dit, on le trouve. Je suis allée moi-même faire le test en supermarché. On le trouve.
Une fois qu'on l'a trouvé, qu'est-ce qu'on en tire comme conclusion ?
Une fois qu'on l'a trouvé, je voudrais revenir sur la liste que présente Roger Langlais dans son ouvrage là sur les études sur le dioxyde de titane, parce qu'elle est assez typique. Des reproches qu'on peut faire à cet ouvrage qui par ailleurs est intéressant. Parmi ces reproches, il y a le fait que c'est une constante chez les gens qui travaillent sur la toxicité des nanomatériaux. On s'est rendu compte à partir des années 2006 à peu près que toutes les études qui avaient été publiées en amont ne caractérisaient pas suffisamment les objets sur lesquels elles portaient.
On tombe dans la guerre des définitions que je dénonçais tout à l'heure.
Non, mais c'est une réalité. Si vous comparez la toxicité d'un chou avec la toxicité d'une courgette, vous n'obtiendrez pas le même résultat. Et on ne peut pas dire qu'il y a un dioxyde de titane. Il y a X formes de dioxyde de titane à l'échelle nanométrique qui ont chacune leur spécificité et potentiellement chacune leur toxicité.
Donc, vous rendez le débat infiniment filandreux. C'est ce que me disait une ancienne ministre de la Santé était déjà face à ce type de dossier, en particulier l'amiante. C'était Elisabeth Huber. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était une des jupettes. Ministre de la Santé qui me disait le problème c'est qu'on finit face à tous ces toxiques par se retrouver avec un dossier infiniment filandreux qu'on n'arrive plus à saisir parce que les lobbyistes et les toxicologues qui sont souvent captifs de l'industrie distinguent tellement les sous-catégories, et ça a été le cas avec l'amiante, vous vous souvenez, chrysotile, longueur des fibres, amphibole, etc., etc., qu'à la limite, à l'arrivée, on ne peut plus gérer du tout et on est obligé d'interdire. Et là, la complexité devient telle qu'on ne peut plus rien faire et on va droit, et ça ce sera la faute des industriels, on va droit vers des interdictions globales.
Vous écoutez Science Publique sur France Culture. Nous débattons aujourd'hui de la question, les nanos sont-elles toxiques ? Avec nos invités, Stéphanie Lacour, responsable de l'équipe Normativité et Nouvelles Technologies du Centre d'études pour la coopération juridique internationale. Pierre-Yves Montéléon, cofondateur d'Avicenne, une association de veille et d'information civique sur les nanotechnologies. Roger Langlais, auteur de l'ouvrage intitulé « Nanotoxiques », publié chez Actes Sud. Marc Verens, professeur à l'université Paul Sabatier de Toulouse 3. Co-créateur de Pilote et de Chromalis, et Laure Sabatier, biologiste, directrice du programme transversal toxicologie au CEA. Stéphanie Lacour et après Pierre-Yves Montéléon.
Alors je veux répondre quand même parce que le débat filandreux m'agace un tout petit peu. Ce que je reproche en l'occurrence au raisonnement, c'est que vous allez chercher à critiquer la mise sur le marché de produits contenant des nanomatériaux en vous fondant sur des études de toxicologie. On est d'accord, hein, votre tableau vient à l'appui d'un raisonnement consistant à affirmer que ces objets...
les références des études qui démontrent des problèmes de toxicité, et je les précise.
Oui, non, vous partez du principe que ces études démontrant qu'il y a une toxicité, il faut réfléchir à la mise sur le marché. Ce que je vous réponds, c'est, en l'occurrence, l'analyse que vous faites des résultats de ces études n'est peut-être pas la meilleure analyse qu'on puisse en faire. Et les experts, par exemple, de l'ANSES qui se sont penchés sur ces études, sont encore en train aujourd'hui d'essayer de préciser leur contenu. Ceci étant, ça ne veut pas dire qu'on ne puisse pas...
Les experts de l'ANSES n'étant pas nécessairement les toxicologues qui ont mené les études. Hein. On est dans un métadiscours. Hein.
Ceci étant, il y a de véritables raisons de se poser la question de savoir quels produits on a envie de mettre sur le marché et quels risques on a envie collectivement de prendre face à une innovation technologique. En matière de dioxyde de titane et de cosmétiques, par exemple, une des réponses qui est proposée par les pouvoirs publics et qui est appuyée par une partie des acteurs qu'on voit dans ce domaine-là, c'est celle de l'étiquetage. Et moi, je pense qu'il serait plus intéressant, en l'occurrence, entre un philosophe et une juriste, par exemple, de discuter de ce que signifie un étiquetage sur un objet qui, en lui-même, est incertain, plutôt que de discuter de résultats de toxicologie dont nous ne sommes ni vous ni moi compétents.
Pour moi, c'est fondamental de prendre en compte l'état des connaissances toxicologiques.
Attendez, Pierre-Yves Montéléon, ensuite, alors ça va être...
Oui, vous comprenez bien, en écoutant ces débats, que le citoyen peut être un peu perdu, d'autant que les producteurs de nanotechnologie, de nanoparticules, sont obligés de les déclarer. Que ceux qui utilisent ces nanoparticules pour faire des matériaux complexes avec savent donc qu'ils les utilisent, mais derrière commercialisent un produit sur lequel on n'a plus la conscience qu'il y a des nanoparticules dessus. L'étiquetage est réservé pour l'instant aux cosmétiques et à l'alimentaire, et encore à l'alimentaire, pas surtout, ça va être en progrès. Et donc, le citoyen, finalement, peut être, et est souvent d'ailleurs exposé, je crois qu'il y a 1400 nanoparticules qui sont utilisées couramment. Peuvent être exposés à ces nanos sans en avoir du tout conscience. Et donc, voir un étiquetage nano ne me dit pas si c'est toxique au sens décrit par le philosophe, pas toxique au sens du juriste qui nous dit qu'il n'y a pas de données. L'Europe nous disait, et les syndicats européens disent la même chose, c'est pas de données, pas de marché. Si on ne sait pas, on ne vend pas.
Absolument.
Si on sait, on peut vendre. Si on ne sait pas, on peut chercher, on peut comprendre, on peut essayer de savoir. Mais de là à disséminer sur le marché des choses dont on dira plus tard, c'est comme l'amiante, dont on dira plus tard, c'était très utile, il y avait un bénéfice-risque, etc. Et puis maintenant, il y a des centaines de milliers de morts.
Alors ça, c'est quand même la question de fond. Alors Sabatier, est-ce qu'il est naturel de finalement mettre sur le marché des produits dont on ne sait pas quel est le degré de toxicité, parce qu'on manque justement des tests et des processus de contrôle que vous avez mentionnés, et que finalement la solution immédiate, c'est de dire on va appeler ça nano, on va mettre nano sur le tube, et de ce fait, il n'y aura plus de problème.
Alors Sabatier, je ne peux pas dire qu'on ne sache pas. La toxicité immédiate. On sait que la toxicité aiguë n'existe pas.
Ça, donc, ça veut dire qu'il y a des tests qui existent, qui permettent de
ces
vérifier.
Ces tests-là, pour me dire, est-ce que la toxicité de ces nanoparticules, la majorité des nanos, dans les jours qui suivent l'exposition, elles ne sont pas toxiques.
Alors, comment on parle aux études,
ce qu'on ne connaît pas à très long terme, ce qu'on n'est pas, c'est qu'est-ce que ça va devenir avec une accumulation dans l'environnement, avec une interaction avec d'autres facteurs dans un organisme qui est un organisme vieillissant. On a beaucoup parlé du franchissement de la barrière et de la capacité de pouvoir s'accumuler dans le cerveau. On ne sait pas du tout ce qui va se passer sur du long terme. Mais sur du court terme, on a parlé abondamment du TiO2, on considère que c'est une nanoparticule qui n'est pas toxique. Il faut dire qu'actuellement, il en a sur le marché plus de 200 000 tonnes. Je vous laisse imaginer si la toxicité du TiO2 était immédiate.
Là, ces 200 000 tonnes représentent pas que les crèmes solaires, j'imagine.
Non, pas du tout, puisque du TiO2, vous en trouvez partout. Vous en trouvez aussi bien sur des surfaces dites auto-nettoyantes que...
Voilà, pour le verre, par exemple,
que dans les aliments, puisque c'est un décolorant.
Et 200 000 tonnes, c'est au niveau mondial ou au niveau...
C'est la production annuelle.
Mondiale.
Oui.
Très bien. Marc Verhelz.
Oui, moi je voudrais revenir un peu sur l'étiquetage nano. Moi, ce qui me dérange dans cet étiquetage, c'est qu'il n'informe pas. Il dit au consommateur, vous avez du nano
dedans.
C'est à lui de savoir ce que ça signifie. Alors moi, je rebondis plutôt sur la proposition de M. Montelléon. C'est-à-dire qu'effectivement, s'il n'y a pas suffisamment de connaissances, eh bien, interdisons la diffusion des produits. Et je vous rassure que l'industriel, petit industriel que je suis, il n'est pas forcément contre. Au moins, les règles du jeu seront claires. Mais actuellement, on est dans une telle incertitude. On va devoir faire des produits, on va devoir étiqueter nano dessus. C'est-à-dire qu'on a une grande chance que le public, les consommateurs n'en veulent pas. Donc on ne va pas vers les investissements, on ne va pas les faire. Parce que dans 2 ou 3 ou 4 ans ou 5 ans, on va peut-être nous dire que le produit sur lequel on a dépensé des centaines ou des millions d'euros pour mettre au point, il va être interdit. Donc pour l'instant, on est dans une espèce de flou, là. Et on nous dit, oui, alors vous allez pouvoir les mettre en vente, mais à condition qu'ils soient étiquetés. Ça essaye de ménager la chèvre et le chou, mais ça, c'est... Enfin, voilà, donc, s'il n'y a pas suffisamment de données, on ne met pas en vente. S'il y a suffisamment de données, on autorise. Mais
Roger,
faire un étiquetage nano, simplement, enfin, à quoi ça correspond.
Alors Roger, ça, c'est typique du discours des industriels et des lobbyistes industriels en général. C'est-à-dire qu'on considère qu'aujourd'hui, le public est débile, qu'il n'est pas capable d'aller sur des banques de données, qu'il n'est pas capable de lire, comme j'ai fait moi-même, les rapports de l'ANSES, qui sont multiples et qui appellent...
Sérieusement, vous pensez que le public va lire les rapports de l'ANSES?
Oui, on peut y aller. Moi, je me bats pour ça. En ce moment, on fait une formation au
Sénat. Massif, vous pensez?
Oui, on fait une formation au Sénat, ouverte au public toute l'année, hein, pour apprendre aux gens à aller chercher aujourd'hui, grâce à Internet, en quelques minutes, on se retrouve sur vraiment avec des rapports de l'OMS en particulier, on n'a pas parlé du rapport de l'OMS, qui demande aussi l'application du principe de précaution et des interdictions au plus vite, en particulier pour les produits qui concernent les enfants. Hein, parce que l'enfant, il a un organisme extrêmement fragile en développement, il est beaucoup plus vulnérable. Et là aussi, on a toutes les indications aujourd'hui pour penser qu'il faut absolument appliquer le principe de précaution. Tous les organismes responsables, tous les grands rapports qui ont été faits appellent d'urgence au principe de précaution.
Mais attention,
donc l'étiquetage est fondamental pour pouvoir s'orienter le public. Il faut au moins lui donner cette possibilité démocratique, sinon c'est n'importe quoi.
Et ce n'est pas l'inaction. Le principe de précaution, c'est justement c'est d'agir et
faire des recherches
et de faire en sorte qu'on puisse étayer les arguments que nous avons. C'est d'anticiper.
Ça permet de mettre un goulot d'étranglement, c'est-à-dire de remettre les choses dans l'ordre, c'est-à-dire la toxicologie avant et l'autorisation de mise sur le marché après, si l'innocuité est démontrée.
Stéphanie Lacour.
Oui, sur l'étiquetage, hein, simplement. Je disais tout à l'heure, quand on regarde par exemple les cahiers d'acteurs qui ont été publiés au moment du débat public organisé par la CNDP en France, qui n'a pas été une réussite totale, mais enfin qui a quand même eu pour avantage de permettre
donc, 2009,
à 52 2010. Acteurs en 2009-2010 de se poser autour d'une table et de déterminer leur point de vue sur la question du développement des nanotechnologies et de la mise sur le marché des nanomatériaux. Donc on a des traces textuelles, 52 cahiers d'acteurs, de ces positionnements à un instant T. Et si on regarde ces cahiers d'acteurs, plus de la moitié des acteurs qui ont souhaité publier se prononçaient en faveur de l'étiquetage. Donc c'est bien qu'à un moment donné, il y a un accord sur une forme de réponse que pourrait donner la société à la problématique du risque lié aux nanotechnologies et plus précisément aux nanomatériaux autour de l'étiquetage. Ceci étant, quand on analyse un peu plus finement ce que l'étiquetage veut dire, on en revient au débat qu'on a eu tout à l'heure. Une fois qu'on a décidé d'étiqueter, on étiquette quoi ? Quels produits vont porter l'étiquette et lesquels ne la porteront pas ? On étiquette comment ? En tout petit, à l'arrière, sur la boîte et pas sur le tube, par exemple, ou de manière lisible. Et on étiquette à la charge de qui ? Est-ce que ça ne revient pas tout simplement à faire porter aux consommateurs la responsabilité d'un choix que l'industriel a fait pour lui en amont ou que les pouvoirs publics refusent de faire en refusant de trancher en faveur ou en défaveur de la mise sur le marché d'un certain nombre de produits ?
Je vois assez mal comment on peut faire un calcul de bénéfice-risque à partir de l'étiquette nano.
Oui.
Ça paraît un peu léger comme élément de... Alors après, comme le propose Roger Langlais, il faut s'adresser au Sénat, à l'ANSES, aller faire sa propre enquête avant donc d'utiliser de la crème solaire cet été.
En tant qu'investigation, on a un rôle. Hein, on a un rôle d'information et de sensibilisation. Je crois qu'on commence doucement à le faire. Et encore une fois, il est important d'appeler le consommateur au maximum de liberté, d'éclairage, ce qui lui permet de décider. Sinon, c'est quoi ? On est complètement hors démocratie. Et en plus, sur un problème de santé publique, où le scandale est déjà constitué, c'est-à-dire qu'on a mis sur le marché, encore une fois, des trucs qu'on n'a pas suffisamment testés, et alors qu'on avait tous les indices pour se méfier. Bon, on est dans une situation où l'étiquetage est vraiment le minimum.
Laure Sabatier.
Attention, il faut voir que pour les nanos, il y a des choses qui sont sur le marché depuis des dizaines et des dizaines d'années. On sait que ce sont des nanos parce que maintenant, on a les outils pour pouvoir les mesurer. Mais elles existent dans notre environnement depuis des centaines d'années. Donc on n'est pas...
Certaines fumées industrielles, maintenant des nanos, faisaient déjà de gros dégâts.
Le fait que les nanos existent et qu'elles sont toxiques. Maintenant, je pense qu'arriver à faire justement dire dans cette phrase le fait que les nanos sont toxiques, c'est vraiment un raccourci qui, pour l'instant, n'est pas étayé par des études scientifiques sur du long terme
en général,
et nous permettant d'avoir... Non, parce que ce à quoi vous faites
allusion... C'est toxique pour les cellules. La grande majorité, regardez les études toxico.
Vous êtes un ensemble,
oui, un ensemble de cellules,
cellules
c'est bien
fonctionnelles.
Problème avec des nanos qui se baladent
et ce n'est pas parce qu'il y en a une sur des milliards et des milliards et des milliards de vos cellules qui meurent que votre organisme va...
Vous pouvez inventer la toxicologie, ce n'est pas possible. Dans
tout à fait.
Pierre-Yves Montéléon.
Oui, êtes-vous pour ou contre les produits chimiques ? Ça n'a pas de sens comme question. Être pour ou contre les nanos n'a pas de sens comme question. C'est d'ailleurs pour ça qu'existe la vie saine et c'est pour ça que vous trouvez beaucoup d'informations citoyennes sur le site Veille Nano. Ne pas être pour, ou du moins être pour ou contre les produits chimiques, ça n'a pas de sens, vous en doutez, puisqu'on utilise des produits chimiques tout le temps. Être pour ou contre les nanos, comme ça, en abstraction, c'est simplement dire je suis contre tout ce qui est en dessous de 100 micromètres. Ça n'a pas de sens non plus. Par contre, pouvoir dire telle ou telle particule est toxique et il faut s'en défier, voire ne pas la produire ou éviter de la produire le plus possible, ça a un sens. Dire celle-ci n'est pas toxique et on peut l'utiliser l'argama nu, ça a un sens. Mais pour l'instant, on ne sait pas. Ni dans un sens, ni dans l'autre. Dire qu'il n'y a pas de toxicité aiguë, c'est un abus de langage là encore, puisque quand on travaille sur les nanos dans le sens de la santé, pour par exemple pour soigner les cancers, c'est bien ce qu'on espère, c'est que la nano a un effet sur la santé immédiat, et le plus rapidement possible. Donc on ne peut pas dire toutes les nanos n'ont pas de toxicité aiguë, on ne peut pas dire toutes les nanos sont toxiques. On ne peut pas dire aucune nano n'est toxique. On est obligé d'appréhender ça comme n'importe quel champ immense, celui du produit chimique, et d'examiner cas par cas.
Laure Sabatier, on approche du terme de cette émission.
Attention, par rapport à l'usage en médecine, quand on s'en sert, ça va être comme un vecteur. Les nanos, et c'est rajouté, par exemple, il y a une société qui fait des merveilles avec l'usage à la fois des nanos couplés à la radiothérapie, mais c'est pas la nano seule qui est toxique. Donc il y a vraiment tout un domaine, et là où vraiment on va pouvoir faire une avancée importante, c'est par rapport à tout ce qu'on va pouvoir arriver à designer de façon à ce que ça soit le plus safe possible. Et quand on va pouvoir comparer, par exemple, on va pouvoir comparer différents types de nanotubes de carbone et voir quel type de nanotube de carbone sera moins toxique à long terme que d'autres.
Eh bien, ça donne. Comme si les nanos n'avaient pas été mis sur le marché.
Absolument,
or,
c'est un peu l'impression qu'on a.
Plus de 3000 déclarants rien qu'en France, il y en a partout. Comment est-ce qu'on peut gérer au cas par cas quand il y en a partout
et qu'il n'y a pas de traçabilité? C'est un peu le paradoxe. C'est le paradoxe de ce sujet. Je vous renvoie au livre de Roger Langlais, Nanotoxique, publié par Actes Sud. Pour en savoir plus, merci à Stéphanie Lacour, Roger Langlais, Pierre-Yves Montéléon, Laure Sabatier et Marc Vérez d'avoir participé à ce débat sur notre site. Vous pouvez réécouter cette émission pendant 1000 jours et la podcaster pendant un an. La semaine prochaine, vendredi 27 juin, je n'ai malheureusement pas trop de temps pour vous parler de notre sujet qui sera pourtant passionnant puisque nous parlerons des cauchemars, pour certains donc une suite de cette émission. Et nous en parlerons dans le cadre de notre partenariat avec le magazine Science et Vie et nous recevrons Benjamin Putois, François Lassagne, Roger Ripert et Perrine Ruby. Science Publique, Dany Journaud, Vincent René, Marie Dalquier, Michel Albergonti. Nous vous laissons en compagnie d'Augustin Trapenard pour le carnet du libraire. Merci à tous, excellent après-midi sur France Culture et à la semaine prochaine.